Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Next Episode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio, partout, tout le temps, sur Internet, à retrouver à la demande, sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Aujourd'hui, mes hommes de confiance s'appellent Renan Cros et Romain Burel. Bonjour messieurs.
Salut.
Pourquoi l'allemand? Je ne le sais pas. Nous ne le saurons probablement pas avant la fin de cette émission. Je me fie entièrement à leur bon jugement. Pour parler de Trust, vous l'avez ? Je me fie, jugement, tout
ah,
ça.
C'est, bref. C'est une blague anglophone, ouais. D'accord.
Série diffusée sur FX et qui débarque sur Canal+, série Trust, une série sans Bernie Bonvoisin, blague de Yeuf, mais créée par Simon Beaufoy, qui avait écrit Slumdog Millionnaire, et réalisée par Danny Boyle, une saga autour de la famille Getty sur 3 générations, sur laquelle nous nous attarderons juste après l'info du jour. Retour au parc d'attractions le 22 avril sur HBO et pour annoncer la saison 2 de Westworld, voici un échange entre Dolores, Evan Rachel Wood et Bernard Jeffrey Bright.
I dreamt I was on an ocean. You. And the others on the distant shore.
Were you with us?
No.
What's it mean?
Dreams don't mean anything, Dolores. That answer doesn't seem to satisfy you.
Because it's not completely honest.
Jeffrey Wright, et non Bright, je sens que c'est une journée de type sable dans la bouche, ça va être comme ça tout le temps. Le retour de cette série signée Lisa Joy, Jonathan Nolan, d'après Michael Crichton, l'attendez-vous, messieurs, ou non, cette saison 2 de Westworld ?
Bah, rien que l'extrait
qu'on a... soupir, ah, non, mon Dieu, c'est pas possible.
Westworld a été une des tannées de l'année dernière. C'était une tannée de s'enquiller les épisodes avec des gens qui parlent comme ça. Est-ce que tu crois que le sens de la vie... On dirait du Bergman, mais pimpé par Nolan. C'est chiant comme la pluie. Okay. Mais on aimerait bien savoir ce qui se passe. Et moi, j'attends le parc d'attractions et de ce Small World avec les poupées diaboliques. Il paraît qu'il n'y en aura pas, mais bon, voilà.
Romain ?
Moi, en fait, je dois être... une des rares personnes au monde à aimer cette série, je crois.
Putain.
Non, j'ai pas une des rares séries. Une des rares personnes, il y a quand même des gens. Mais moi, elle m'intéresse parce que évider à ce point les personnages de ce qu'est le caractère, etc., de ce qui fait un personnage, c'est quand même un acte assez fort. C'est quasiment du nouveau roman.
C'est parce
pour
que
moi,
t'es maso.
Carrément, moi, je trouve ça.
Nathalie Sarraute, Westworld, ouais, même combat, quoi.
Pour moi, c'est, on est chez Alain Robbe-Grillé, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste si vous enlevez l'histoire et que vous enlevez les personnages? Bah, il reste ça. Il reste Westworld. Et ça m'intéresse, en fait, comme objet. Puis il y a un plaisir un peu presque de gamer à évoluer dans ce monde qui est complètement construit, qui est un monde fini, dans lequel on déambule, mais comme dans un jeu vidéo quasiment, en fait, parce qu'il n'y a pas d'histoire et encore une fois qu'il n'y a pas de personnage.
Alors, les points Sarraute et Robbe-Grillé ayant été atteints dès le début de cette émission,
on est très chaud.
Je propose que nous passions chaud. Directement à Trust.
My grandson, John Paul Getty III.
He's got a big house. Lots of women.
Which one of you is Paul's girlfriend?
I am.
She plucked the thin black straps from her shoulders, revealing Pat's eager breath.
Enough. It's crazy here.
What about the money, Paul?
Money! I ran up some debts in Rome. I made some mistakes.
What sort of mistakes?
Grab that cash!
What helped too much? Drank too much?
Drugs?
No.
John Paul Getty, le patriarche, est riche, très riche. John Paul Jr. aussi, mais désavoué parce que ex-toxico. Et accessoirement, père de John Paul Getty, troisième du nom, ado chevelu, babos bohème. Lui-même un peu trop libre dans sa tête et dans son nez. Il va être kidnappé par la mafia italienne et le grand-père est moyen motivé pour payer. Ça, c'est Trust, série réalisée par Danny Boyle et magistralement interprétée par Donald Sutherland, Michael Esper, Harris Dickinson et Brendan Fraser. Messieurs, lequel d'entre vous a le plus de de pognon pour savoir à qui je kidnappe et à qui je demande la rançon.
Prends Ronan.
Personne paiera
je
pour moi.
Je kidnappe Ronan et je demande une rançon à Romain. Wouhou !
Et ben moi, je peux crever, d'accord.
Alors, j'ai essayé tant bien que mal de pitcher la série. C'est beaucoup plus que ça, en fait. Hein. On est quand même une saga.
C'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ sur une série qui est un peu le miroir de ce qu'avait essayé de faire Ryan Murphy avec Versace. En
fait. Ça, il y a le point Ryan Murphy dès l'entrée, quoi.
Dès le départ. C'est-à-dire qu'on a deux hommes riches très puissants, deux hommes très très influents, assez aux mœurs assez perverses, on va dire.
Qu'il a plusieurs femmes, voilà. Paul Getty.
Il a un harem, il a littéralement un harem, il le dit d'ailleurs.
Et comment leur aura peut détruire les gens autour d'eux, en gros. Et on a aussi deux séries qui se passent dans des périodes de temps assez éloignées. Les années 90 pour Ryan Murphy et Versace et les années 70 pour l'affaire Getty. Et c'est simple, si on doit juste compter les points, il y a quelqu'un qui réussit admirablement bien son travail. Mm. C'est Danny Boyle dans les deux premiers épisodes, dans les trois premiers épisodes de Trust, et il y en a un qui foire sa copie, quoi. C'est Ryan Murphy.
C'est un chaos, hein. C'est un chaos esthétique. C'est vraiment une victoire par chaos esthétique, théorique, sexuelle. Il y a tout. En fait, vraiment, Danny Boyle, c'est comme s'il avait regardé Ryan Murphy. Il lui avait dit, écoute, mec, bon, c'est bon, tu nous as fait marrer avec tes conneries. Je vais quand même faire vraiment ce qu'il faut faire. Je vais faire vraiment American Crime Story tel que ça devrait être écrit et fait. Et c'est vraiment la saison 2 d'American Crime Story, en fait. C'est-à-dire que c'est over the top, pervers, camp, hystéro. Moi, j'ai vraiment orgasme série télévisuelle-ifique, quoi. C'est-à-dire que c'est...
rien dire, mais
sériphilique, pardon. Sériphilique. Ouais. C'est extraordinaire à regarder. C'est même... Et ça fait hurler les gens. On a l'impression de voir du cinéma dans la série. Même, ça veut, je dis pas du cinéma au sens du grand écran du cinéma. Ouais. C'est qu'on a l'impression de voir un metteur en scène qui...
C'est extrêmement virtuose.
C'est impressionnant. La première séquence, notamment sur Monet qu'on a entendu, est vraiment dingo. Alors après, ami du bon goût, de la sobriété et de Bergman, fuyez, hein, c'est vraiment pas pour vous. C'est vraiment une série vénéneuse au sens littéral du terme sur comment un patriarche petit à petit détruit toute sa famille. Ouais. Mais en fait, c'est aussi le miroir. En fait, les 40 ans de Dallas, et en fait, c'est une sorte de miroir de Dallas. C'est-à-dire qu'on avait JR, la famille Ewing, tout ça, le pétrole, qui était déjà très inspiré de la famille Getty, tout ça. Et ce qui est génial, c'est que Danny Boyle dit, mais en fait, Dallas et JR, c'est du pipi de chat, quoi. C'est vraiment...
Par rapport au vrai.
Par rapport au vrai. Ou du pipi de chat tout court, d'ailleurs.
Ah, mais c'est un film à passer pour la Ligue communiste, quoi. Enfin, c'est, clairement, c'est un film qui déteste l'argent. Enfin, une série qui déteste l'argent. Tu vois,
ou l'effet que l'argent a sur,
ouais, mais
sur les gens grands.
Qui prouve que grand 1, les gens très riches sont très malheureux. très pervers et s'ennuie beaucoup dans la vie. Donc finalement, que l'argent détruit, quoi. Et c'est vrai qu'on regarde d'une manière assez terrible ce que fait tout ce pognon à l'humanité de ces gens. Elle les évide. Par exemple, pour le personnage de Donald Sutherland qui est vraiment draculesque. Mmh. D'ailleurs, Danny Boyle filme sa chair vieillit d'une manière vraiment gourmande et dès les 10 premières minutes.
C'est assez gonflé. Hein.
Ouais, mmh. Montrer ce corps flétri par l'âge, etc. C'est vraiment... assez fierce, quoi. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, il est... Ouais. On y va, franco. Et en plus, on le voit copulé.
Oui, oui.
Donc, et ça met bien
un renfort de médicaments, de scénarios.
De piqûres dans le boob, très littéralement. C'est une séquence...
Je vais pas aller jusque-là, mais bien sûr. Si.
Non, mais c'est quand même une séquence improbable où on ne comprend pas à quoi ça la seringue, et tout d'un coup, on fait, ah oui, d'accord, ok, j'ai compris.
Et c'est vrai que, pour le coup, je trouve que la série, elle est... Enfin, ce qui compte beaucoup comparé à peut-être à ce qu'a raté Ryan Murphy dans Versace, c'est aussi parce que c'est porté par des très 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 bons acteurs, quoi.
Ah mais là c'est
sérieusement,
c'est un festival.
Déjà Sutherland est juste incroyable. J'ai envie de dire parfait. Il reprend un peu le personnage qu'il avait dans Dirty Sexy Money, comme ça, patriarche, ou même dans Hunger Games, j'ai envie de dire. Ça n'est comme ça, vieux patron,
la
comme
gourmandise
ça, corrompu,
de Romain quand il dit Hunger Games.
Corrompu, vraiment du mauvais côté de la vie.
Ouais, et puis surtout, je trouve que contrairement à Ryan Murphy, Beaufoy en fait fait une sorte de cahier des charges immédiat. C'est-à-dire que la première séquence, c'est vraiment, on pourrait vraiment montrer les deux pilotes côte à côte de Versace
Faisons
et de Trust.
Faisons un point effectivement sur cette scène d'ouverture.
Mais c'est marrant,
la scène d'ouverture du pilote est folle.
Mais il y avait la même quasiment dans Versace. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Versace, il y avait le meurtre de Versace où on suivait les personnages. C'était hyper opératique. On voyait qu'une nana se baladait, crier dans la mer, revenir. Et donc, il y avait cette idée du même mouvement de caméra. Et donc là, on assiste au suicide par embrochage.
Par fourche
d'un des fils Getty.
Défoncé. On ne sait quoi, mais excessivement
et
défoncé.
Et en fait, ce que fait Boyle et Beaufoy que ne fait pas Ryan Murphy, c'est que c'est presque un peu drôle, en fait. C'est-à-dire que
Parce que la scène est vue aussi à travers la porte du garage, voilà, dans laquelle il s'est enfermé, où il y a quatre vitres et quatre têtes de femmes qui regardent.
Exactement.
Par la vitre,
et je pense que là où Murphy, en fait, c'est ce qui était le plus intéressant d'ailleurs dans American Crime Story Versace, il faisait un autoportrait de lui à travers ses personnages fascinés par Versace. Là, Boyle est vraiment un satiriste, c'est-à-dire qu'il regarde ces personnages-là, il les déteste, il les méprise. Il y a une réplique qui est géniale au début où ils sont à table, le vieux vient s'asseoir, il y a toutes les femmes autour d'elle, on comprend pas d'ailleurs très bien qui elles sont, et il commence à citer le roi Lear, et donc il y a un type qui dit oui, le roi Lear, toutes ses filles se sont entretuées, et il les regarde, il fait non mais moi je suis pas Shakespeare, hein. Et il y a un truc comme ça où en fait il y a une ironie totale des personnages, où en fait au moment où on construit un personnage pour le mythologiser, on pourrait dire ça, en fait Boyle dit non, en fait c'est vraiment des pourritures et c'est pas des héros et c'est pas des personnages symboliques, ce sont vraiment des saloperies.
Alors on parlait du jeu des comédiens, moi je voudrais donner une mention toute spéciale à Brendan Fraser,
qui joue
un enquêteur à la solde de Getty et qui est absolument merveilleux.
Incroyable. Si le premier épisode est vraiment consacré au personnage de Donald Sutherland, dès le deuxième épisode, on est sur cet enquêteur de la CIA qui maintenant est devenu enquêteur privé et qui essaye de retrouver donc le petit-fils de Getty dans un Rome sublime qu'on reconnaît, qui est pas trop de cartes postales pour une fois. On évite un peu quand même de nous la jouer. Hein. On se promène pas trop au Vatican, etc. On voit pas trop de nonnes passer. vraiment, c'est d'abord il a ce physique incroyable, il a pris énormément de poids, on sait qu'il a eu beaucoup de problèmes, etc. Je crois que c'était dans GQ, dans Vanity Fair US, où il expliquait qu'il avait été victime d'une agression sexuelle par un ponte d'Hollywood, un mec qui notamment gère les Golden Globes, et qu'il a eu du mal à s'en remettre, qu'il a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Et ce physique-là, en fait, lui, en fait quasiment même un acteur intéressant, en fait. C'est-à-dire que ce physique-là, lui, enfin moi, entre Georges de la Jungle et ça, on se dit, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé, quoi.
Un acteur bonhomme.
Puis ça raconte quelque chose de ça participe aussi au travail de la série, qui est sur la désagrégation, le has-been, à quel moment on passe d'un côté et de l'autre. Il y a Hilary Swank et lui, qui sont quand même deux acteurs qu'on voit quasiment plus dans le cinéma américain. C'est intéressant de les voir apparaître d'un coup parce que ça produit une sorte de miroir dans la série. Après, moi, ce qui me fascine avec ce personnage de Brendan Fraser, c'est qu'on a l'impression qu'il pourrait être dans Fargo. C'est-à-dire qu'une espèce de type un peu bonhomme, un peu rigolo.
Mais un peu cassé aussi.
Un peu cassé, qui nous parle. Une espèce de truc, encore une fois, la lisière entre le foutage de gueule et le sublime. Et c'est vraiment ça, à mon avis, le génie de cette série, c'est qu'on peut à tout moment éclater de rire devant des situations qui sont absolument improbables. Des dîners de famille dans le premier épisode qui sont horribles. On dirait l'impression d'être chez Winterberg dans Festen. Et puis dans la seconde d'après, vous avez l'arrivée de, j'ai oublié son nom, d'un invité supplémentaire qui s'appelle, je ne sais plus comment, féminin.
Ah bah oui, l'invité venu d'Afrique.
L'invité venu d'Afrique, voilà, merci, gros coup de main.
C'est comme ça en tout cas que Getty Senior vend.
Et cette scène-là est extraordinaire parce qu'elle est absurde au dernier degré et que Boyle la filme avec toute son... Il y a une espèce de gourmandise en fait dans la série. Je trouve que c'est une série gourmande, à la fois gourmande contre ses personnages et la laideur de ces personnages-là, le majordome, est extraordinaire. Je ne sais pas si vous...
Oui, il est fabuleux.
Majordome, vous allez l'entendre en fait, parce que je voudrais qu'on parle après de ce que cette série raconte de la famille. Et là, vous avez justement un échange entre Donald Sutherland et son majordome.
It would appear from the paper that your grandson has been kidnapped.
I am perfectly capable of reading, Bullimore.
Of course.
The butter is too hard.
Voilà, donc cet échange est absolument symptomatique des rapports de la famille, hein, savoir le petit-fils a été kidnappé, le majordome informe le grand-père qui dit « bah oui, je suis capable de lire, mais je voulais juste vous dire que le beurre est trop froid ». Mais même au niveau des dialogues, il y a quand même un travail de dialogue qui est assez spectaculaire. Ouais, bien sûr.
Je suis vraiment le cinglé de cette émission, mais ça me fait vraiment... Non,
mais c'est
j'ai
très
beaucoup
drôle.
Ri hein, devant Trust, mais bon.
Mais Danny Boyle déteste l'argent, c'est comme ça qu'on lit, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était quasiment une série politique et qui doit plaire à des gens qui contestent l'ordre établi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez intéressant de voir comment, en fait, il considère que les gens qui sont très riches, surriches, ne sont pas capables d'amour, en fait.
Mais c'était déjà dans son cinéma, il y a beaucoup ça. C'est-à-dire la peur du groupe, la peur de la possession, la peur du pouvoir et comment le pouvoir transforme les personnages. Il l'avait fait d'ailleurs de manière un peu plus poétique avec Slumdog Millionnaire sur la question de l'argent. Mais là, on sent qu'il est beaucoup plus... il retrouve, pour moi, à mon avis, la férocité et la méchanceté de Trainspotting, mais avec les moyens du soap. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de Danny Boyle souvent, c'est que ses scénarios, le cadre part un peu dans n'importe... Enfin, Trans, je sais pas si vous connaissez de Trans avec Vincent Cassel. On était un peu genre, bon, ok, t'étais vraiment un génie de la mise en scène, mais ton scénario est débile. Là, en fait, il y a quand même Simon Beaufoy qui bosse son truc avec des personnages très écrits. Mais, en fait, on n'est pas dans le true crime tel que Versace l'était, c'est-à-dire je colle à la réalité, je veux montrer que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, à la fin de chaque épisode, il y a un carton qui dit attention, certains dialogues sont cohérents avec la situation, d'autres sont inventés pour le besoin.
Ça, c'est genre
est-ce qu'on
carton
a précisé que c'était adapté de Ferré? On l'a pas dit, je crois, depuis le début de l'émission.
Si, si, mais d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant parce que on se fout de savoir comment on peut divulgacher entre guillemets sur ce coup-là, parce que si on veut pas savoir comment ça se passe, il faut pas non plus lire Paris Match, hein, parce que pour le coup, cette histoire elle est documentée, il y a eu des tas de biographies sur l'affaire, etc. Et d'ailleurs, on connaît un peu des éléments dès le premier épisode, donc on voit une oreille arriver, on sait que le jeune Getty va perdre au moins une de ses oreilles. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est aussi les moments où la série qui se passe dans le temps, d'une manière assez lointaine, dans les années 70, parle aussi de l'époque. Il y a une discussion incroyable entre le petit-fils et son grand-père quand ils sont sur une plateforme pétrolière, où en fait, il résume tout ce qui est fait à partir du pétrole. Ouais. Et on se dit, alors le gamin lui dit, ah ouais, quand même, sauf que nous, on s'enfonce dans le canapé en se disant « Ah, mais merde, on est toujours dans la même galère, en fait. » Ça a été fait dans les années 70, mais en 2018, on a les pompes en pétrole, les vêtements en pétrole, la maison en pétrole, tout.
Et c'est une scène purement Boyle, où en fait, on passe d'un dessin, d'un truc hyper théorique à un truc hyper pratique. Et il faut quand même oser des mises en scène, parfois, où ils superposent des images, des trucs. Notamment le début du deuxième épisode, où Brendan Fraser nous explique le contexte des années 70. Il faut oser, quoi.
Façon House of Cards.
Et puis façon montage clipesque d'images. Vraiment, les gens qui aiment le bon goût vont détester ça.
Mais si je peux mettre un bémol, c'est du pur Danny Boyle, mais qui retient quand même un peu les chiens, les chevaux,
Je sais pas s'il les retient tant
que ça. Faire bien pire, hein, franchement.
Par exemple, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai eu une petite hésitation à savoir si c'était le même réalisateur entre les deux premiers épisodes. Ouais. Parce que par exemple, il y a beaucoup de chansons des années 70 dans le premier épisode, c'est typiquement lui, quoi. Et dans le deuxième, il n'y en a pas du tout. Par contre, il y a des split screens, mais dans tous les sens, mais alors d'une manière Instagram, quoi. C'est pas de bon goût du tout. On est plutôt, on parlait de Dallas, c'est un peu le générique de Dynasty, en fait, plutôt que
c'est ça qui est assez génial avec lui, c'est qu'il a d'ailleurs apporté ça dans les années 90 au cinéma, c'était le virtuose, mais qui a très mauvais goût. C'est-à-dire que c'est une sorte de Spielberg dans sa capacité à mettre en scène des grands récits, sauf que lui, il n'est pas obsédé par le divin et les enfants qui regardent les écrans en l'air. Il est obsédé par les bébés moisis qui sortent des toilettes et les junkies. Et vraiment, je pense que c'est aussi une série de junkies, en fait. C'est-à-dire que tous les personnages sont quasiment drogués et on parle de drogue.
Et mis à l'écart pour ça. C'est
bien sûr.
Très étrange.
Mais c'est passionnant, et notamment cette idée que les personnages sont répugnés parce qu'ils sont eux-mêmes, notamment le deuxième fils Getty, donc Getty 2.
Jean-Paul 2. JP2, voilà. Pas Jean-Paul.
qui finalement va sacrifier son fils à la fin du premier épisode, sans trop révéler, en lui disant si moi tu me détestes parce que je suis un drogué, regarde qui il est, lui. Et donc en fait il y a une sorte de malédiction des personnages. C'est vraiment une tragédie grecque, mais une tragédie grecque qui serait jouée sur un théâtre off-Broadway hardcore
et dont chaque acte serait plutôt se centrerait sur un personnage plutôt que de nous taper la galerie à chaque fois, etc. Si dans le premier épisode effectivement c'est Donald Sutherland, le deuxième épisode on est sur Fraser, on se dit que dans les épisodes suivants le personnage de Larry Swank va avoir un épisode qui lui sera forcément consacré, quoi. C'est assez intéressant de voir comment cette série évolue,
et on veut que ça revienne sur Donald Sutherland.
Oui, et en même temps, ce qui est très fort, c'est que le fait divers est presque périphérique. C'est-à-dire que, comme on sait, Romain a raison, on sait à peu près ce qui va se passer et comment ça va se passer. Mais justement, on sait comment ça s'est passé, mais on ne sait pas le temps, le quotidien. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec quelqu'un qui pourrait libérer votre enfant et qui ne veut pas le faire? Puisqu'en fait, c'est ça, hein, c'est que le grand-père ne veut pas donner l'argent. Et en fait, la série va se plonger dans l'idée du quotidien de ces gens-là. Comment on vit avec ce type-là qui a l'argent pour vous sauver et qui ne le fait pas? Je trouve que c'est ça qui est très fort, c'est que c'est pas une série de faits divers, c'est une série sur le quotidien d'un fait divers. Et ça, c'est vraiment génial.
Et alors, en dehors d'Hilary Swank, dans la galerie de femmes du harem de Donald Sutherland, je trouve la femme officielle, la numéro 1, absolument fascinante.
Elle est géniale.
On attend beaucoup de ce personnage.
Notamment face à la fameuse Teresa. Dont on parlait tout à l'heure.
L'invitée africaine,
la séquence est démente. Ouais, vraiment. Et surtout, on se dit, oulala, ça sent la série un peu miso sur le personnage qui a un rêve, il y a un truc un peu sordide. Et en fait, tous ces personnages féminins, et notamment la femme donc, de Jean-Paul II, là, de Jean-Paul Getty II, John Paul Getty II, est formidable aussi. Elle lui dit, mais vas-y, bats-toi. Et tout. C'est vraiment. Moi, j'ai retrouvé le plaisir que j'avais dans les sauts. En fait, vous vous souvenez du début d'Empire de Lee Daniels?
Ouais.
Ah, moi, j'ai détesté.
Moi, j'étais fan d'Empire au début, et après, je me disais, ça marche plus. Là, il faudrait que c'est Empire x 1000. Donc, vraiment, je suis à fond.
Alors, pour pour moi, c'est mieux qu'Empire. Il faut surtout pas que ça dégénère derrière, si je peux me permettre.
Mais c'est marrant ce que tu dis sur cette façon qu'il a de nous montrer le côté soap et tout. Moi, je l'ai moins ressenti. Par contre, ce côté drogué, on l'a et d'une manière hyper intelligente. Par exemple, on a une espèce de statue à Rome qui est là, et en fait on se demande si c'est quelque chose de réel ou si c'est un trip, et puis finalement il en fait quelque chose d'une manière assez intelligente. Là, pour le coup, je vais pas divulgâcher parce que c'est assez intéressant. C'est un réalisateur, quoi. C'est ce qu'on voit. C'est ce qui manquait beaucoup à Ryan Murphy.
Mais c'est ce qui manque tout court à la série en ce moment. C'est-à-dire qu'on parlait de Westworld tout à l'heure, où Westworld, il se regarde faire des beaux plans. Dans Danny Boyle, lui, il fait 25 beaux plans à la seconde et il s'en fout. Il les crame.
Il passe au suivant.
Non, mais il les crame. Vraiment. Ça. Il a un truc. Il est comme ça. Il fait des grands angles, des trucs. La caméra se retourne. Et tu vois, il y a des gens, ça fait 25 ans, ils pourraient arriver à ça. Et il fait une annonce sur la séquence d'intro.
Et là, c'est pas trop épileptique. C'est très supportable à regarder. Oui. Il n'y a pas ce travers qu'il peut avoir.
Format d'une heure un peu étiré, ouais. qui est une promesse quand même, parce qu'il faut tenir une heure. Hein. Pour le coup, ça lui sied bien, parce que justement, il n'a pas besoin de contracter tout ça. Même si parfois, on parlait, il y a peut-être des moments de split screen où il essaie de nous faire gagner du temps quand Brendan Fraser est en train de déambuler et d'enquêter dans Rome. Mais franchement.
C'est un peu ludique aussi, c'est ça qui est rigolo, c'est ça qui l'amuse. En fait, vraiment, moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'à la fois, tout ça est vraiment très respectueux et très pris au sérieux, et en même temps, c'est pas si sérieux que ça.
Et puis, ça cause beaucoup, c'est vrai, on parle souvent du walk and talk en disant que bon, c'est un peu facile, ça cause beaucoup, mais en tout cas, ça délivre aussi parce qu'il y a des images, on voit des choses. Le pognon, tu le vois à l'écran.
Et je le redis, les dialogues sont incroyablement ciselés, en fait, et au service d'acteurs fédéraux.
Globalement, c'est une des meilleures choses de la rentrée série depuis.
Oh, j'allais le dire. Hein, bah, on allait dire la même chose.
On est tellement copains.
Clairement, ouais, j'ai hâte de voir ce que va devenir l'acteur qui joue Getty 3, là.
T'as eu un crush, crush.
Il est beau comme un dieu.
Il est super beau dans.
Oui, mais il y a un truc très androgyne, très christique.
En double Jagger, période 70, un petit peu sa coquinée avec Bowie, là, c'est pas mal du tout.
Il marche pile.
Mais la question, c'est. Moi, j'ai cru comprendre que la série était plutôt construite comme une anthologie et qu'on allait suivre la famille Getty de cette affaire-là jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est moi
genre,
qui...
Je pense que moi, c'est pas ce que j'ai lu. Moi, j'ai compris qu'en fait, ça allait se terminer sur... alors déjà, apparemment, c'est une mini-série et que c'est réglé là-dessus. Et qu'on allait sûrement aller jusqu'au dénouement, c'est-à-dire sa libération.
Spoiler.
Mais qu'on n'irait pas plus loin. Mais après tout, pourquoi pas? Parce que cette famille a assez, cette histoire qu'on ne connaissait pas, mais qui, intéresse tout le monde aujourd'hui, parce que même Ridley Scott en a fait un film. on n'en a pas parlé. Mais c'est assez drôle de voir que deux réalisateurs hollywoodiens ont eu la même idée à peu près au même moment, en font deux choses différentes.
Ah putain, c'est violent quand même pour Ridley Scott. Hein. C'est vraiment une grosse tarte. Hein.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en un coup, Danny Boyle vient de regarder deux personnes. Quoi.
C'est ça.
Trust, vous l'aurez compris, c'est amplement validé par Next Episode. Et c'est disponible sur Canal Série, messieurs, la traditionnelle reco.
Tout à l'heure, je parlais de Dirty Sexy Money, cette vieille série du début des années 2000. Franchement, il faut que vous lui donniez une chance. Il y a deux saisons seulement, mais... C'est vraiment une série qui était hyper craquante, vraiment bien
Peter
faite.
Peter Krause,
exactement, avec Donald Sutherland et Candice Cain, l'un des, si ce n'est le premier personnage de personne transgenre joué par une personne transgenre dans une série télé.
Renan.
Moi plutôt une reco cinéma en fait, parce que qui à mon avis le
mec change les règles, chez lui c'est comme
mais oui, attendez, on est YOLO, on est
libre. Il est libre Renan,
je suis libre dans mon nez. J'ai apprécié l'expression tout à l'heure, je suis libre dans mon nez. Steve Jobs de Danny Boyle qui est à mon avis le pendant angélique de Trust, c'est-à-dire ce que l'idée du créateur génial du personnage qui à mon avis écrase tout le monde, mais vu d'un point de vue beaucoup plus angélique ou en tout cas d'un point de vue beaucoup plus moins pourri. C'est un film absolument génial avec Michael Fassbender en Steve Jobs et surtout Seth Rogen et Kate Winslet, qui est vraiment, je pense qu'on peut se faire un combo Trust Jobs, voir à quel point Danny Boyle est vraiment l'un des cinéastes qui a le mieux compris le capitalisme américain aujourd'hui.
Merci Renan, merci Romain. Messieurs, on vous retrouve en direct de Cannes Série à partir de ce samedi pour des next épisodes très spéciaux dont tu auras la charge Romain. La première c'est samedi à 13h sur Séance Radio et partout sur internet. Cœur avec les doigts mes restas.
François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure pour John Crawford.
Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback.
Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma.
Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art, avec Antoine Cyr et Antoine Julien et sur toutes les applications podcast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.